Leslie John au couloir numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Y'a pas de diapéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
Salut à tous, bienvenue dans votre émission sportive L'Instant Sport avec Julien Gall qui est venu en canoë à la radio. Salut Julien.
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Patrick Biancone qui est venu en hors-bord. Salut Patrick.
Salut, et le moteur puissant, bonjour à toutes et à tous.
Et Nicolas Thomas qui a sorti son pédalo. Salut Nico.
Salut à tous.
Ah, il est écolo lui, c'est normal.
Et oui, il est écolo, c'est pour ça. Et Laurent Julien, lui qui a marché sur l'eau pour venir.
Voilà. Bonjour tout le monde.
Alors le fait du week-end, nous allons l'écouter en son tout de suite. C'est parti. Et tiens, Julien, il va commencer.
Quel escroc.
Allez,
de
Julien.
Je commence par City,
tu commences non, par PSG Lille.
Pourquoi tu dis qu'on est le côté de l'Angleterre?
Parce qu'après, il y aura Manchester City contre Chelsea.
PSG Lille.
PSG Lille, ouais.
4-0,
ouais. Nico.
3-1.
Ok.
2-1 Paris.
Ok. 3-0 Paris.
On a un témoignage en main de quelqu'un qui a été déclaré cliniquement mort. Et qu'il est ressuscité, il est revenu à la vie.
2-0 Paris.
Alléluia, ça veut dire loué soit Dieu. Toute l'assemblée est appelée à se mettre debout et à proclamer et à acclamer la parole de Dieu qu'elle va écouter. Alléluia, c'est un chant qui s'interprète dans la joie avec conviction et force. Voici l'Alléluia en fa majeur.
2-0 Paris.
Alléluia.
2-0 Paris.
Ah, bel hommage. Hein.
Qu'est-ce que ça va être quand j'ai gagné un match, moi?
Et ouais, ça va être un peu pareil. Et ouais, il a ressuscité.
Merci
il
beaucoup,
était
Ludo.
Cliniquement mort et il a un point sur ce classement. Il ne sera pas fanny cette année. Bravo.
Ah ouais.
Bravo.
Mais écoute, merci. Merci beaucoup.
Alors, Mathilde,
grâce aux Parisiens.
Et ouais, grâce à Paris. Toujours un, tu marques avec Paris, toi. Hein,
non, c'est pas truc d'habitude.
C'est oui, vrai. C'est vrai. Mathilde a marqué un point aussi, sachez-le, elle a marqué un point sur Paris. Et notre ami Julien, qui est bien allé du côté de l'Angleterre, revient avec un point du match City-Chelsea. Donc, 3 points marqués ce week-end, ça se resserre au classement, je suis toujours en tête. Patrick ex aequo à la deuxième place avec Julien, Mathilde et Tom, et troisième ex aequo Lolo et Nico.
En plus, je suis content parce qu'ils ont eu un but refusé par la VAR à la 94e City.
Ouais.
Et pour une fois,
ils ont eu raison de le refuser ou pas?
Oui, oui.
Oui,
oui, oui.
Donc,
rien à dire.
Alors,
mais la VAR, il n'y a jamais rien à dire.
En vrai, c'est un scandale. S'il n'y a pas la VAR, il faut l'accepter, ce but. Ça se joue à 3 mm.
C'est ah ouais,
un scandale sans nom.
Il y en a marre de la VAR, Patrick. Ouais.
Ah non, 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 parce que l'arbitre a émis qu'un carton jaune hier quoi, au Toulousain, donc heureusement qu'il y avait la VAR, parce que là, s'il n'y a pas carton rouge sur j'ai rarement vu, ça faisait moi, j'avais pas vu un tacle comme ça.
Ouais. C'est scandaleux.
Alors, messieurs, la question du jour, parce qu'on fait quand même notre petit jeu.
Tu montes pas au cause d'âge régulièrement, Patrick.
On va en parler.
Il n'y a pas la VAR. Oui, mais il n'y a pas la VAR.
On va en parler du cause d'âge. La question du jour. Flamengo a remporté la Copa Libertadores ce week-end face à River Plate, 2-1. On est d'accord jusque-là?
Oui.
La dernière fois que Flamengo avait remporté la Copa, c'était en 1981 avec Zico, qui en finale, alors c'était au meilleur des trois matchs, aller-retour et Bell, avait marqué 4 buts. Mais ma question n'est pas là. Dans cette équipe de Flamengo en 81, il y avait un jeune joueur titulaire de 20 ans qui est ensuite parti au Benfica Lisbonne avant d'aller dans un club français remporter une Coupe d'Europe. Quel est ce joueur brésilien?
Rai.
Non.
Une Coupe d'Europe? C'est-à-dire qu'il l'a gagné avec Marseille alors?
C'est Carlos Moser.
Ou Paris.
Carlos Moser.
Bien joué Laurent Julien, Carlos Moser.
Ah ouais, chapeau.
Ouais. Titulaire en 81, t'imagines?
Tu vois, je ne savais pas ça.
Il a... Il a gagné.
Par contre, Carlos Moser, il a pas gagné la Coupe d'Europe avec l'OM.
En 93.
Il n'était pas en 93, non, Moser.
Enfin, peut-être que je me trompe, mais
je crois. Non, il n'y était pas.
D'accord.
Mais, il a perdu une Coupe d'Europe en 91 à Paris.
En 91, ouais.
Ouais. Tiens, on va vérifier s'il n'était pas là en 93. Mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, je le vois pas. Non, je vois.
Je le vois pas non plus.
Boli.
Mais c'est pas grave. C'était, c'était intéressant de savoir que Moser a gagné la Copa Libertadores. Ouais.
De Saïs.
81, il devait être drôlement jeune, par contre.
Et Felipe Luis, qui a gagné la Copa Libertadores ce week-end et qui a quasiment tout gagné à Paris des Champions, qui a joué à l'Atlético Madrid, à Chelsea, il a gagné Libertadores. L'autre
gagné.
Coupe.
Pas gagné avec des champions.
C'est quoi l'autre coupe d'Amérique du Sud?
Il était à Marseille de 89 à 92 et en 92 il est retourné à Benfica.
Allez, la loose. T'es bien marseillais, dis-toi. Ok, c'est pas grave, comme ça tu pourras choisir qui commence les pronostics. Hein,
d'accord, ok.
Allez, on va commencer cette émission par le volet. Énorme match au Pioncourt ce week-end. Dans Ligue B, le MVL gagne 3-7 à 0 contre Fréjus. 25-23, 25-23, 25-19 au classement, ce qui nous donne Saint-Nazaire premier 15 points, Saint-Quentin 12 points, 3e Nancy 12, 4e Cambrai 12, 5e Martigues 10, 6e Mende 9, 7 Plessis-Robinson 8, 8 Fréjus 6, 9 Ilac 5 et l'Institut fédéral qu'on appelle point. France 2024, ouais. 1 point.
C'est ça.
Ouais, voilà.
D'ailleurs, qu'ils ont marqué leur premier point ce week-end, en perdant 3-2 au Plessis-Robinson.
Ouais. Alors, tiens Patrick, toi qui as compté ce match. Parce qu'on se dit 25-23, 25-23, oui. Un peu tendu quand même.
Oui. Alors, en fait, je pense que Constant a trouvé son équipe type.
Oui.
Il a un peu tâtonné au début de saison avec les nombreux changements qu'il y a eu, nombreux départs et nombreuses arrivées. Et puis là, enfin, je pense que dans sa tête, maintenant, c'est clair. Donc avec le Polonais Soupa qui était absolument pas venu pour ça, mais qui maintenant s'est fixé au poste de libéro. Et donc à la place de Soupa en réceptionneur attaquant, ce Ryan Utia, qui au début venait plutôt dans un rôle de remplaçant, puisqu'il venait d'élite, puisqu'il jouait à Amiens, même s'il a connu la Ligue B avec Orange, et d'ailleurs on l'avait vu quand on avait éliminé Orange en Coupe de France. Donc ben Ryan Utia qui est titulaire et qui fait ses matchs, et donc c'est vrai que ben voilà le 6 de base et on sent des joueurs qui montent en puissance.
Colo a fait son match
Oui, Colo a fait son match, mais
on a bien là.
Voilà, moi le joueur vraiment qui a été stratosphérique et je pense que c'est le meilleur match que je l'ai vu faire depuis deux ans, c'est Minero.
Oui, Minero était très
alors bon, c'est paradoxal parce que quasiment tout le premier set, c'est-à-dire on était à 18-18 ou 19-19, on ne l'avait quasiment pas eu. Et même on était en train de dire avec Jean-Michel qu'il avait des soucis en réception et plusieurs erreurs assez grossières de sa part. Et donc on arrive à 23-23, il est au service, il met deux aces.
Ouais.
Donc là c'était totalement hallucinant, il a mis deux boulets énormes et donc ça fait 25-23.
Il était on fire.
Et donc après les deux sets suivants...
Contre le Plessis, il avait fait pareil.
Voilà. Et donc, mais là on a vraiment senti que ces deux services donc qui font basculer le premier set, puisque tu as 23-23 quand il prend la balle pour servir. Ben, ça a fait vraiment basculer son match, surtout à lui. Et alors après, dans les deuxième sets...
Et après, il a marché sur l'eau.
Ah ouais, il était vraiment... Voilà, comme voilà, on peut le dire.
Comme l'eau ce matin.
C'était comme quasiment... Je ne sais pas si c'est un supporter de Flamengo, mais en tout cas, il était vraiment... Et d'ailleurs, on a dit au président Jouve qu'il pouvait lui offrir un billet d'avion pour passer les fêtes à Rio. Avec ouais, Neymar,
ça, c'est risqué, parce que voilà. Le retour après...
Il le méritait amplement,
ouais. Ouais. Ouais, mais c'était tendu quand même. Ça s'est joué à un alors, petit détail ben, ou
ouais, c'était bizarre. Allez, parce que
c'est le détail. Toi.
C'était bizarre parce que tu vois, bon, un énorme match. Moi, pour moi, l'énorme match, c'était contre Martigues. Et bon, tu sentais Fréjus en retrait au niveau qualité par rapport à cette équipe de Martigues. Et nous, serré les deux premiers sets, mais on avait presque l'impression qu'il pouvait rien nous arriver.
Sans avoir peur, voilà, c'est là où je
exactement.
Il y a des matchs comme ça.
Il y a des matchs comme ça, c'est vrai que c'était une drôle d'impression. Et dans le deuxième set, c'était pareil. On avait l'impression qu'on maîtrisait, mais finalement, on arrive 22-22. Et il faut aussi quelques services, donc en particulier un ace de Minero aussi, dans ce Money Time, à partir de 22-22. Mais bon, sans être inquiété, on avait l'impression que rien ne pouvait nous arriver.
Ouais, ben du coup, moi j'étais au match aussi, ça me fait deux d'affilée que je vais voir. Et comme disait Patrick, alors c'était moins impressionnant que contre Martigues pour moi avec mon œil extérieur en termes de spectacle, voilà, clairement contre Martigues, il y avait des points longs souvent. Là, il y a quand même eu beaucoup de points très courts ce week-end, beaucoup d'échanges, beaucoup d'intensité. Là, ben J'ai trouvé qu'un peu moindre, mais par contre, comparé à ce que je voyais l'année dernière, ce genre de match accroché sur les Money Time, eh bien, à 23-23, peut-être ça aurait tourné à 25-23 pour les autres, pour pas grand-chose. Ben là, ça tournait à 25-23 pour nous, le deuxième set à du même acabit un peu. Et je trouve que ben ouais, c'est ce qu'on appelle expérience. Hein. Non, on a pris de l'expérience. Ces matchs qui se jouent un peu à flux tendu comme ça et qui auraient pu basculer de notre côté, ben bascule de l'autre côté, je rejoins Patrick avec une certaine sérénité.
C'est ça.
Voilà, même à 23-23, même quand on se fait revenir des tribunes, on se dit que ouais, c'est accroché, mais ça va le faire, ça dégage quelque chose, et c'est vraiment intéressant à voir. Donc même si le match était peut-être un peu de moins bonne facture contre Martigues, cette impression de sérénité qu'on n'avait pas les années d'avant et qui fait plaisir à voir.
Non, mais en plus, tu parlais de Vincent Mabiala. Bon, depuis le début de la saison, c'est vrai que c'est un élément fort de l'équipe. Il a fait son match. Il a mis moins de blocs que les matchs précédents, mais il a fait son match sans problème. Et surtout l'Américain, ouais. qui au début de saison, était un peu coussi-coussa. Bon, il a été blessé en préparation, il faut pas l'oublier. Une blessure aux abdominaux, pour un volleyeur, c'est quand même handicapant. Mais là, franchement,
il fait voir. Pour un animateur radio, c'est pas gênant.
Non, mais il fait voir. c'est vrai que c'est beaucoup moins inquiétant. Et donc, monté en puissance, il a mis des bons services. J'ai trouvé, il a mis, bon, au bloc, il a freiné des ballons, il était là. Même en attaque, il a mis quelques points. Vraiment, on sent cette homogénéité dans l'équipe. On n'apporte pas un joueur vraiment qui va dominer sa propre équipe, qui va être au-dessus du lot, mais on a vraiment un niveau moyen qui, à mon avis, est supérieur à celui de l'année dernière, et puis une équipe homogène. Alors bon, tu as perdu à Nancy, c'est vrai que tu aurais pu dire, ouais, ils ont fait un coup contre Martigues, mais tu as vu le résultat. Nancy, Martigues-Nancy, 3-0 pour Nancy.
Ouais.
Donc Nancy, vraiment, est en train de faire voir qu'ils ont monté une équipe pour jouer en Ligue 1. Et donc, toi, tu as quand même pris un set à Nancy, à l'extérieur. Donc, ça prouve maintenant, quand tu vois les résultats, ça prouve qu'on était quand même toujours sur le droit fil de ce match contre Martigues. Donc là, on a confirmé contre Fréjus. Vendredi prochain, on va chez les jeunes de France Avenir à Montpellier, vendredi 19h. Voilà, il faut marquer 3 points aussi. Oui. Et après, tu reçois Saint-Quentin, qui a pris une branlée à Saint-Nazaire, mais ça paraît normal aussi. Qui est en tête. Donc, c'est vrai que ça peut, en 15 jours, là, ça peut, si tu mets 6 points, ça peut te faire basculer dans une autre dimension, quoi.
Oui, parce que mine de rien, au classement, on est que 6e.
Oui.
Et seulement à 4 points du 9e, qui est Iliac.
Oui.
3 points même, oui. Non, 4 points. Ils ont
3 points du 2e.
Oui, mais
t'as 4-3 points du deuxième.
Si on veut jouer les playoffs, il faut être dans les 8 premiers. Et finalement, Iliac qui est le premier, première équipe qui n'est pas dans les playoffs, et qu'à 4 points derrière finalement. Oui, parce c'est à l'extérieur qu'il faut qu'on.
T'as 3 équipes à égalité avec 12 points.
Non, mais il faut regarder devant, Lolo. C'est pas derrière qu'il faut regarder.
Non, mais je suis prudent, moi.
Non, mais c'est vrai que j'ai l'habitude, moi, de fixer des objectifs un peu hauts. Mais je pense vraiment qu'on peut accrocher ces playoffs à domicile pour les quarts. Donc, il faut finir dans les 4 premiers, forcément. Bon, mais, ça va être dur, ça va être compliqué parce qu'il y a des belles équipes. Mais je pense qu'on peut le faire.
Patrick, c'est déjà une bascule parce que si tu perds, t'es à la place de Fréjus, 8e avec 6 points. Ouais. Et là, t'es avec 9 points, t'es à 3 points du second, quoi.
Mais je te dis franchement, vu maintenant la montée en puissance de toute l'équipe, tu rejoues contre PC Robinson. Ouais. Le premier match, t'étais pas prêt. Mais je peux te dire que Plessis Robinson, ils partent 3-0, ils partent avec 3-0 ou 3-1. Hein.
Mais qu'a demandé quand.
Mais voilà, c'était l'autre match, c'était normal, l'équipe se connaissait pas. On peut le comprendre aussi, mais à mon avis, tu es supérieur à une équipe de contre Plessis Robinson. Tu dois finir, à mon avis, devant une équipe comme le Plessis Robinson.
Non, mais ouais, je rejoins vraiment Patrick sur cette homogénéité, ce niveau un peu homogène et un peu plus élevé que l'année dernière avec cette expérience qui a été prise. Puis j'ai l'impression que voilà, d'un œil extérieur, moi j'étais juste devant la zone des remplaçants. Oui. Tu vois un mec comme West, quand il sort, il vient voir ses collègues, discuter avec eux. Enfin, on sent que tout le monde est que tout le monde est concerné. Enfin, ça dégage quelque chose qui n'était pas palpable l'année dernière, qui est un peu plus palpable cette année. Et je rejoins Patrick sur le fait que je pense qu'à domicile, après l'extérieur, moi je suis pas trop, mais vraiment on a une équipe sereine, costaud et qui est capable de faire des belles choses.
Non, mais c'est vrai que samedi quand même, il y avait ces intempéries. Bon, même s'il n'y a pas eu de catastrophe ici en Lozère, mais il y a quand même
par contre,
l'hiver qu'on est bordé, mais tu vois le gymnase, ça répond présent. Oui, il y a du monde.
Il y a du monde et des habitués.
Voilà, il y a des habitués. habitués, il y a un vrai public, des gens qui sont là pour encourager, qui se mettent debout, qui applaudissent, qui encouragent. Et bon, quand tu discutes avec les joueurs, et j'ai un peu discuté avec Vincent Mabéa, bon, il a connu l'Espagne, bon, il se dit, j'arrive ici à Mende, une petite ville, il voit ce chaudron, il voit ce public, même eux, ils sont surpris, quoi. Et c'est vrai que ça les porte à domicile, ça galvanise, ça joue son rôle, le public joue son rôle.
Bien.
Là, on peut dire à Fréjus, par exemple, il y avait un libéraux, le libéraux de Fréjus, il a vécu un cauchemar. C'est Hugo Leca, son père est entraîneur de Montpellier en Ligue 1, Montpellier qui est dans les trois premiers de la Ligue 1, donc une longue lignée de familiale de volleyeurs, mais il s'est fait exploser. Ouais. Il savait même plus, il laissait tomber les ballons, quand il en prenait un, ça zippait dans une tribune où son passeur était obligé de faire 4-5 mètres pour récupérer le ballon. Il a même pris une attaque en pleine tête de Mineiro, passé un temps. Il a pris une bougie, mais il était perdu. Il savait plus, on aurait dit pas ce qu'un débutant, quoi. Donc, c'est vrai que c'était rare à voir la difficulté de la réception de Varoise. Ils étaient vraiment à l'agonie sur ce match, quoi.
Après, sur le changement de poste du nouveau libéro, c'est peut-être le joueur, de mon œil extérieur, que j'ai trouvé un peu plus en difficulté que les autres. Il y a 2-3 ballons qui va jouer alors qu'ils sont out.
Ouais.
Et je voulais dire ça pour revenir sur la sérénité, c'est-à-dire que ces ballons qui étaient out et qu'il a joué, c'était sur des points un peu décisifs où l'équipe d'en face se rapproche. Peut-être que l'année dernière, ça nous aurait mis dedans. Ben, c'est pas grave, on a continué à jouer malgré cette erreur, cette petite erreur. On continue à jouer, on est serein, on va prendre le point d'après et on repart de l'avant. Et ça, c'était intéressant, je trouve.
Mais tu fais bien d'en parler parce que moi, j'étais exceptionnellement près du terrain pour commenter le match. Et sur plusieurs points, tu as raison, il a pris, alors que Mineiro, qui était à côté de lui disait out.
Il oui, ça s'entendait. Out.
Il avait juste à s'effacer, et puis bon, il a pris dans le truc, et c'est vrai qu'il récupérait ses ballons, alors que son copain qui était à côté, lui, il savait déjà que le ballon sortait de. Et parfois assez nettement, quand il serait sorti assez nettement.
Et malgré ça, on continue à jouer.
Vous parlez de Choupa, c'est ça, qui a joué libéro. Oui. Chaillou a joué quand même.
Non, il est même pas rentré. D'accord. Sur ce point.
Le seul qui est rentré, c'est le jeune Tanguy.
Oui, Dijoud.
Dijoud.
Qui est rentré pour grandir le centre, sur quelques points.
Sur des fins de set.
Voilà, sur et quelques alors, points spécifiques.
C'est dur à dire sur des bouts de match.
Ouais,
mais
tu peux pas le juger parce qu'il reste pas pour attaquer, tu vois. Il reste juste pour contrer. Et après, il sort de suite.
Je sais pas s'il a touché un ballon.
Ouais, c'est pas sûr.
C'est très dur d'être remplaçant au volley-ball.
Ouais, mais ça fait plaisir à voir ce jeune, de l'envie qu'il avait.
C'est très dur partout.
Enfin, il était très content de rentrer, de jouer ses deux points. Enfin, il était à fond sur le bord. Il fait partie des remplaçants qui donnent de la voix aussi. C'est voilà.
Alors une meilleure homogénéité cette année.
Non mais c'est symbolisé. C'est vrai que je l'ai écrit et je l'ai souvent dit dans cette émission. C'est vrai, notre passeur Résus Brouquet que je voyais par rapport à d'autres passeurs des équipes adverses. Bon, je le voyais moyen. Mais là, cette année, voilà, cette année, bon, contre Martigues au service, il a été hallucinant. Bon, il a été plus quelconque, j'allais dire, au service, même s'il a été bon. Mais dans le jeu, tu sens qu'il a pris une autre dimension. Il te fait des passes, des fois,
caché,
à l'opposé, ou à son, comme dit Nico, à son central, juste à côté. Bon, franchement, il est en train de grandir, de progresser. Il prend une autre dimension. On sent qu'il est totalement maintenant intégré à la ville, parce que tu peux le croiser. Moi, je le croise régulièrement. Il déambule partout. Il est là, il va acheter son pain. Non mais c'est vrai. Nous, on voit ça, mais il faut se rendre compte. Mais tu parlais de l'Américain, mais il faut. Le mec, il a grandi en Californie. Non mais je sais pas.
Il s'est retrouvé à Man.
Non mais l'année dernière, il jouait en Allemagne. Bon, c'était déjà une première adaptation à l'Europe. Mais il faut savoir ce mec. Il a grandi en Californie. Il arrive ici à Man, en Lozère. C'est le grand écart. Il faut le reconnaître. Et donc c'est normal qu'il y ait un temps d'adaptation, même s'ils sont entourés, s'il y a les bénévoles.
Ça dépend où en Californie. Il y a peut-être des bleds un peu paumés.
Moi je dis Los Angeles Man, de même combat.
Eh ben oui, c'est il y a quand même des trajectoires de vie et de
même viaduc. Même viaduc.
Voilà, il faut pas oublier ça non plus.
Ouais, chapeau en tout cas.
Ouais, chapeau. C'est vrai.
Bon, maintenant il faut gagner à l'extérieur.
Il faut gagner vendredi.
Si on veut finir dans playoff, il faut faire des résultats extérieurs en plus de domicile.
Et la réserve aussi. Ouais,
normalement, ça doit le faire.
La réserve aussi, match, bon, je ne l'ai pas vu, mais match énorme.
3-2.
Contre l'Escar, puisque l'Escar, pareil que Mende, est invaincu. Donc c'était le match des deux équipes invaincues. Alors, il y avait en plus la blessure du passeur remplaçant de la Ligue B, donc Lucas Gros, qui fait partie de ce fameux centre de formation. donc qui aurait dû être titulaire ce match contre l'Escar. Donc il n'a pas joué parce qu'il est blessé.
Donc ni lui ni Tanguy alors.
Je crois qu'il a joué mal levé, enfin à vérifier. Je sais pas. En tout cas,
est-ce qu'il peut jouer avant ou pas?
Ouais, je crois qu'il peut jouer avant.
Je crois. Non, je crois pas.
On avait dit oui la semaine dernière.
Avant, en tout après, cas, après oui.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sofiane Amorin, qui a joué lui avec la réserve, était sur la feuille de match de la Ligue B. Donc, il n'est pas rentré, mais il aurait pu rentrer s'il en avait besoin.
D'accord. À la place de
Lucas. Lucas, en gros. Il n'y avait qu'un passeur, mais pour compléter l'effectif, Sofiane Amorin était sur la feuille de match. Donc, en tout cas, donc là aussi, en réserve, donc c'était le passeur qui, en principe, est remplaçant. Et donc, il y a eu un match de toute beauté. Une balle de match dans le quatrième set pour Mande, qui a été loupé, donc Pau est revenu à 2-7 partout, et puis 16-14 au tie-break, donc un match hyper serré.
Bravo, donc en haut du classement, c'est le réserve aussi.
Voilà. Mais deuxième pour l'instant, parce qu'ils ont toujours un match en moins par rapport à l'Escar, mais invaincu, contrairement à leur adversaire.
16-14, dernier set. Hein.
C'est ça.
Chaud patate, comme on dit par chez moi.
Et l'Escar, c'est où là? Parce que c'est
à côté de Pau. C'est la banlieue de Pau. En fait, c'est le club de Pau.
Pau.
Ouais. D'accord. Ok.
Ils vont à Niort ce week-end.
Ils vont à Niort. Voilà. Et gros déplacement encore.
Ça fait des gros déplacements puisqu'ils sont pas dans la poule Languedoc.
Oui. Voilà. On a parlé un peu la semaine dernière.
Grâce à l'ASBAM.
À l'ASBAM.
Merci l'ASBAM. Mm.
C'est quoi l'ASBAM?
Pas l'ASBAM, c'est plutôt le club de Montpellier. Les dirigeants,
quoi. Ah. Voilà. C'est l'autre club de Montpellier.
D'accord.
Il y en a d'autres, il y a la Croix d'Argent aussi. Bon. C'est un parce que le Montpellier.
L'ASBAM qui ne devait pas monter.
Voilà, qui ne devait pas monter. Le règlement a été modifié pour qu'il puisse monter. Bon. Et en plus, il se retrouve dans la poule, bien sûr, à Languedoc. Et Mande, du coup, c'est la poule Auvergne, Nouvelle-Aquitaine. Donc, ils ont un kilométrage hors
parce
norme.
Parce que New York, pour y aller, il te faut...
Ah bah là, c'est hallucinant.
Mais même pour temps, quand même.
Il te faut y aller
à Pau.
Oui, Pau, c'est pareil. Ouais.
Pau, c'est loin. Hein, c'est c'est droit, là. À partir de Rodez, ça tourne jamais.
Ils ont Mérignac. Par exemple, il va falloir que tu ailles à Mérignac. C'est la banlieue de Bordeaux.
Ouais.
Ah ben c'est pareil. Voilà. Ben quand tu vas à Pau, tu attends Bordeaux, tu restes Bordeaux, sur place.
Hein,
comme ça, t'es
faut
pas
faire
loin.
Le même week-end.
Faire le même week-end, ouais, exactement. Ok, merci messieurs. On passe au football avec l'exploit du week-end pour les U18 de l'AFL en Coupe Gambardella. L'AFL en R2 élimine l'AS Béziers, leader de R1 au tir au but, et se qualifie pour le tour fédéral. Ce qui signifie, d'après l'Avenir Foot Lozère, que cette équipe se classe parmi les 4 meilleures équipes U18 de toute l'Occitanie.
Là, c'était les finales régionales.
Tu peux pas de Marseille, hein. Tu peux pas de Noël.
Il restait 4 matchs en finale régionale, donc il y a eux qui sont passés. Rodez,
je sais pas si Rodez, Muret, les Blagnac. Autres, tu le sais. Tu peux pas de Marseille ou ça va rester
l'Occitanie? Ça reste relativement... Non, pas en 4. Plus. Ça reste relativement géographique. D'accord. Quand même. Bon. Prendront pas le PSG, quoi.
Alors, tu peux prendre de Nîmes, Montpellier, un truc comme ça.
Ah, ouais, parle d'accord. Pas de Nîmes là, ce week-end là.
Le tirage au sort est jeudi, là. Okay. Le tirage au sort est ce jeudi et le prochain tour est le week-end du 14-15 décembre.
Ok. Voilà. Et donc là, on est en quoi du coup?
En fait, c'est 64e de finale, c'est le premier tour fédéral. Ça. Ça montre, ça engage les clubs qui jouent en 19 nationaux en fait.
D'accord.
Ouais, mais tu n'oublie pas que quand même, sur toute la Ligue Occitanie, on ne parle même plus du Languedoc-Roussillon, on parle de l'Occitanie. Il reste 4 équipes.
C'est qui reste?
Rodez, Blagnac et Muret.
4 équipes hors U19 nationaux.
C'est une très grosse formation, la banlieue de Toulouse.
Ouais. Je pense que c'est la génération de l'an dernier, puisque l'an dernier, la FL avait perdu en Coupe Occitanie contre Muret, en U17. Donc ça doit être cette génération qui est là. Et
qui est la seule défaite de la saison.
Et encore là.
Ouais. Et donc, si tu connais bien ta géographie, on est le seul club du Languedoc-Roussillon. Puisque les trois autres, c'est de la Ligue Midi-Pyrénées. Ce qui s'appelait à l'époque Midi-Pyrénées.
Parce que Rodez a éliminé la Clermontaise. Et après,
on est le seul avant l'entrée de Nîmes Olympique et de Montpellier.
Hors U19 nationaux, il a raison.
Au niveau de la Ligue.
D'accord, mais alors, si j'ai bien compris, si c'est géographique, on tombe ou sur Nîmes ou sur Montpellier ou sur Béziers. Quoi.
Non, tu peux avoir, je pense, Marseille, Monaco, je pense.
Tu peux prendre Rodez.
Tu peux prendre Rodez,
Muret,
Toulouse. Oui, même des Marseille, Monaco,
tu penses pas que... Il a raison, Toulouse.
Toulouse.
Ok.
Mais après, tu peux aussi prendre une R1 d'à côté, quoi. Parce que dans les autres ligues, les R1 sont aussi passés. Il y a des R1, des R2, il n'y a pas que des clubs... d'envergure nationale.
En principe,
je pense que le pire tirage, ce serait d'aller chez une R1.
Ouais. Tu peux pas faire, à mon avis, une poule géographique qu'avec les clubs d'Occitanie. Donc ça va quand même brasser avec d'autres lignes.
Oui,
certainement.
Et c'est quoi, c'est match aller-retour ou c'est un seul match?
C'est l'équivalent de la Coupe de France chez les jeunes. En sachant qu'on parle de l'OM, tout ça, des 19 nationaux. Cette année, en Coupe Gambardella, un licencié U19 n'a pas le droit de jouer cette Coupe.
Voilà, c'est ça.
Pourquoi?
C'est un nouveau règlement.
Par rapport, parce que c'est limité à U18, par rapport à la réforme de la Fédé, c'est limité au U18.
Ah bah c'est bien.
Donc un U19 n'a pas le droit de la jouer, donc voilà, ce sera des catégories des joueurs de leur âge. En sachant quand même que Daniel, avec son groupe, a aussi pas mal de U17.
Okay.
Donc, un sacré exploit.
Tu parlais de Marseille et de la Gambardella. Ben, contre Toulouse, la charnière centrale Camara Perrin, il y a deux ans, mais c'était la charnière de la Gambardella qui a perdu au tir au but contre Montpellier. Enlevé le rideau de la Coupe de France,
au Stade
de France.
On avait vu il y a quelques années Valère Germain et compagnie jouer sur le chapitre en Coupe Gambardella.
Valère Germain,
j'y étais, mais j'étais pas rentré.
Oui, il jouait à Monaco.
Il a 38 ans, Valère Germain.
Non, pas tout à fait.
Non.
Mais joué contre lui.
Il y avait, juste pour rebondir ce que disait Julien, c'est que dans Midi Libre, il y avait écrit un bel article sur ça, avec une petite nuance, puisqu'il parle de la génération 2002. Il y a quand même beaucoup de 2003 dans cette équipe qui compose ce groupe. Et notamment les tireurs de pénalty étaient des 2003. Ouais. C'était les plus jeunes de l'équipe. Donc voilà.
Je tenais à le dire. C'est des joueurs que j'ai eu il y a deux ans, là, en U15. Donc moi, je suis vraiment content pour eux.
C'est grâce à toi.
Non, pas du tout.
C'est toi qui leur as pris à tirer des pénaltys.
Pas du tout.
Non,
parce qu'on avait perdu.
Non, parce que là, les genoux qui tremblent quand il y a des pénaltys à tirer.
Il y a les genoux qui tapent l'autre, alors.
Non, mais vous qui les connaissez bien, bon, moi, les échos que j'ai, c'est que, on parlait d'homogénéité, mais il paraît que dans ce groupe-là, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de star ou un joueur qui fait faire la différence ou qui est au-dessus du lot. Par contre, les gars sont, ils sont tous à peu près au même niveau. Et puis, ils donnent 100% avec bien sûr, cornaqué par un coach. C'est vrai qu'il est un peu hors norme dans le milieu, quoi.
Alors du coup, si on peut ressortir un nom, alors c'est un nom qui d'habitude ne ressort pas quand on va voir les matchs du 18. Non, c'est pas ça. D'habitude, on parle des attaquants, des cidés, tout ça. Et alors sur ce match, j'ai trouvé un joueur héroïque, c'est Guillaume Trosselier, le stopper.
Il est très très bon
et vraiment beaucoup d'engagement, de volonté. Et c'est bien parce que d'habitude cette équipe a quand même la possession de balle sur ses autres matchs. Ça fait X années qu'ils jouent ensemble, c'est eux qui ont le ballon, c'est eux qui mettent des tannées aux autres. Et là, sur cette fois-ci, sur ce match, ils ont eu très très peu la balle.
Ils ont montré autre chose.
Et ils ont dû montrer autre chose qui, je pense, n'ont pas trop l'occasion de le démontrer. C'est-à-dire cette volonté de se dépasser physiquement, mettre de l'impact physique et je pense qu'à l'image de l'équipe Guillaume Trosselier mérite d'être cité aujourd'hui.
Nico, 3 ans qu'il est au club, en plus c'est parfaitement intégré là-dedans.
Du coup, moi c'est une équipe que je suis pas mal, ça fait partie des matchs que je vais plus le voir, les U18, parce que ça propose du football, donc c'est intéressant. Une génération, comme on disait, qui a l'habitude d'évoluer ensemble depuis un moment. Et c'est vrai, les années d'avant, c'était une équipe qui avait l'habitude d'avoir le ballon, de faire le jeu, etc. Cette année, donc ils jouent en U18 et R2. Donc c'est pas la première fois qu'ils avaient pas la balle, parce que je rejoins Lolo sur le fait que c'est Béziers qui a un peu plus la balle. Mais je me rappelle un match contre Latte à Roufiac, où on gagne 2-0 ou 3-0, quelque chose comme ça. Le premier quart d'heure, on bouffe Latte. Pendant 60-70 minutes, on voit plus le ballon, mais on fait le dos rond, on prend pas de but. Et le dernier quart d'heure, on replante un deuxième but et c'est fini 2-0. Donc j'avais parlé, je me rappelle de cette fois-là à la radio, de cette capacité de cette équipe qu'on connaissait pas avant, parce qu'elle avait tout le temps la balle, à faire le dos rond, être costaud. Mais c'est ce qu'ils ont montré contre Béziers. Faut pas se mentir, Béziers, une très belle équipe. Premier de R1, ils ont montré des bonnes choses. On est bien rentré dans ce match en marquant rapidement par l'intermédiaire de Pierre-Louis, c'est ça,
ouais.
Voilà, sans dire de bêtises. Derrière, grosse domination biterroise.
C'est Bressieux.
Pardon.
Bressieux.
Voilà. Grosse domination biterroise derrière. On prend un but 35e, on va dire.
Non, juste avant la pause.
Juste avant la mi-temps.
Sur un coup franc côté où justement il y a une faute. On prend un jaune. Derrière, on va parler. On prend un deuxième jaune pour contestation, donc deux jaunes coup sur coup. On perd un peu en concentration. On a vu des jeunes biterrois qui disaient rien malgré tout le monde qui avait autour. Ça parlait aussi pas mal, etc. Mais voilà, un très bon état d'esprit sur le terrain. Je pense qu'on se déconcentre un peu sur ce moment-là. Oh, quand même.
Quand tu vois le match de U13 avant, il y avait numéro 3 qui s'est bien fait allumer parce qu'il a ouvert son bec plusieurs fois et surtout mis des petits coups de pied là. Un peu et surtout c'est leur gardien la séance de pénalty qui
a été vraiment horrible.
J'avais jamais vu ça.
Du coup sur le but, ben on se déconcentre un peu, il y a un coup franc qui est tiré second poteau, remise de la tête plein axe, ça marque, ça revient à un homme. Donc mi-temps. Derrière, ben deuxième mi-temps, on voit pas trop le ballon, hein. Clairement, on voit pas trop le ballon. Les Biterrois le confixent, ça se joue très très bien au ballon. Une triplette offensive, la 9-10-11, vraiment très très intéressante. Beaucoup de réussite pour la FL vers la 85e.
Il manque rate à la 85e,
un très beau mouvement biterrois qui se termine par une passe en retrait plein axe. Le mec,
d'ailleurs, il est en vidéo sur le site de la FL.
Il est sorti 10 secondes après
ouais.
son entrée.
Alors, le mec envoie le ballon au-dessus. Sur ce, il se fait sortir direct. Je pensais qu'il allait réagir, mais non, il a rien dit. Il est sorti. Vraiment, faut se dire la vérité, un exploit des U18. Mais voilà, une équipe biterroise dominatrice qui avait la maîtrise du ballon, etc. Mais on a fait le match qu'il y avait à faire et derrière, on se qualifie au pénalty. Des jeunes qui n'ont pas tremblé. Premier et dernier tireur de Béziers qui manque le pénalty. Donc félicitations à FL.
Nico, tu parles d'un véritable exploit. Quand ça fait deux tours que tu gagnes le premier de RE1, est-ce que c'est toujours un exploit?
C'est juste une question. C'est un double exploit.
Franchement, pour être. Je suis coach de la FL, donc je suis supporter de la FL. Clairement, si on ne passe pas, si on perd 2-1,
oui, c'est pas.
Il y a rien à dire.
Bah, le match, tu le joues 10 fois, tu passes que samedi. Hein.
Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un exploit pour
comme
moi.
Comme l'a dit Daniel, il fallait être prêt le bonjour.
Ah,
il
était prêt le bonjour. Mais c'est très bien. Voilà. Mais attends, c'est exactement.
Ceci dit, pour revenir un peu sur le fait que c'est une équipe qui évolue depuis un moment ensemble, je nuance un peu ça quand même parce qu'il y a eu pas mal de départs depuis deux saisons. Il y a donc 4 joueurs l'an dernier qui étaient partis jouer en 17 nationaux du côté de Rodez et de Latte.
Ouais. Il y a trois Rodez
et un Alat. Ouais, donc sur les 4, il y en a 2 qui sont revenus. 2 qui sont revenus au club, qui auraient pu rejouer là en U18 cette année, mais qui sont avec nous en senior avec la réserve. Donc ça fait déjà des joueurs en moins. Donc il y a des joueurs aussi forcément pour compenser ces départs qui sont arrivés. Il y a beaucoup de 2003, des 2002, moitié-moitié. Donc il y a des joueurs qui se connaissent, certes, 5 ou 6 qui jouent ensemble depuis un moment. Mais après, le reste, il y a quand même des arrivées. Le gardien, Clément Pagès, qui était à l'entente Chastel-Chanac depuis tout petit, qui a rejoint le club cette année et qui est très intéressant dans les buts. Tout à l'heure, il parlait de Guillaume Trosselier, qui est au club que depuis 2-3 ans. Les 2003 que j'évoquais tout à l'heure, que j'ai eus il y a 2 ans et qui, eux, jouent ensemble depuis un moment. Mais connaissant Daniel, il faut être capable de s'intégrer dans son collectif et ça fait que 2 ans qu'ils sont avec lui. Donc oui, il y a des joueurs qui se connaissent et d'autres un peu moins. Donc c'est vraiment quelque chose de grand qu'ils ont fait. Toute l'équipe ne joue pas ensemble depuis 10 ans, donc ça c'est à nuancer. Et maintenant, je pense que là, ils attendent tous le tirage au sort. Je pense qu'ils attendent tous un gros maintenant.
Plus quand tu sors, ce week-end, en plus.
Quand tu sors le premier pool A, le premier pool B de R1.
Et alors, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire qu'on soit en 64e?
Oui, c'est arrivé au moins 2 fois.
Ce que tu disais là,
il y a eu le Monaco, et puis il y a eu aussi un autre match... Alors, je me rappelle plus contre qui c'était. Alors, en mémoire, j'ai au moins 2 fois.
D'accord. C'était vers quelle époque, alors, tu te souviens? Quelle année c'était?
Alors, l'époque, Monaco.
Nico, c'était il y a 13 ans. C'était il y a 13 ans, c'est ça?
Monaco, c'était pas en 2004?
2005.
C'était 2006, alors.
Ouais, ça doit être ça. Je crois qu'on en parlait avec Thibaut et qui ont regardé le match au bord du terrain. Il y a 13 ans comme Monaco, on les avait reçus au chapitre. On avait perdu, je veux pas dire de bêtises, 6-0. Il y a des joueurs comme Valère Germain,
Thuram
Gardien, ouais. Distel Zola qu'on a vu quelques années après en Coupe de France au chapitre.
Avec le Havre,
etc. Donc voilà, on avait pris 6-0, 2 triplés, un triplé de Valère et un triplé de je sais plus qui. Voilà, une belle équipe de Monaco qui était allée assez loin.
En tout cas, ça n'arrive pas toutes les années.
Vous dire un peu l'image de cette coupe, nous on rentrait sur le terrain en disant, avant le match, en disant putain, on reçoit Monaco au chapitre et tout, c'est beau. Et on voyait les gars de Monaco qui disaient putain, c'est quoi ce terrain pété, vite qu'on passait tout et qu'on aille jouer au Stade de France. Non, mais voilà la différence entre ces jeunes qui sont habitués à autre chose que nous. Et ils disaient, les gars, faut pas qu'on tombe dans un traquenard, match pété, faut qu'on aille au Stade de France. Et nous, on était là, waouh, putain, on reçoit Monaco au chapitre, il y a du monde qui va venir nous voir, quoi.
Bon, en tout cas, ça redonne un peu de baume au cœur à tout le club. On en parlait, on a connu toutes ces péripéties. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir une équipe qui est positivement, qui est sur une dynamique, et ça peut, c'est vrai, réveiller un peu toutes les strates du club.
Mais parce que ça fait un peu du bien en ce moment voilà. Dans
parce
le club
que,
de
parce que c'est vrai, surtout en coupe, quand tu vois les derniers résultats
de semaine avait
des
été
seniors
un peu plus difficile.
En coupe, c'est vrai que ça
puis
fait
pour preuve le parler. Pour preuve le monde qui avait malgré les conditions qu'on a répétées en début d'émission
parce
qui avait
s'est arrêté de pleuvoir une
oui,
demi-heure avant
oui oui c'est arrêté de pleuvoir mais ouais, un peu avant, vers 13h, parce que Julien, ces gens ont enlevé l'eau à la raclette pour que ça puisse se jouer, ouais. Clairement. Mais par contre, ouais, un beau monde quand même. Il y avait du monde, ça me dirait, les yeux posent d'or, vraiment.
J'ai des questions. On est en R2, pour arriver en nationaux, il y a quoi, il y a combien de divisions des clubs?
R1 et après, national.
D'accord, on est combien en R2?
Quatrième.
C'est le premier qui monte, il y a des playoffs.
Oui, pour monter.
C'est pas certain que ce soit l'objectif.
De R2 en R1.
Peut-être pas l'objectif, et puis faut se dire clairement.
Non, mais c'est une question.
Les équipes de l'AFL, l'ensemble des équipes qui retrouvent le niveau Ligue cette année pour la plupart, c'est très bien. C'est un niveau qui était connu quand nous on était en jeune. On avait toujours minimum une équipe en Ligue. Là, on avait eu avec la refonte des divisions et puis tout ça. Le changement de district, donc les équipes qui étaient en district, là c'est très bien pour l'avenir du club que les jeunes jouent au niveau régional, ça peut être comme plus pour la suite et pour la préformation. On vient de passer 5-6 ans en district, pour un club comme l'AFL c'est peut-être pas quelque chose de... Enfin, l'AFL n'était pas à sa place en étant en district en jeune, quoi. L'AFL se doit d'avoir des équipes en régional pour pouvoir alimenter le groupe senior par la suite. Quoi.
Et les deux divisions des corps en marche, si on tombe sur une équipe qui est deux divisions au-dessus, on est obligé de les recevoir?
Je pense que c'est comme pour la Coupe de France.
Oui, non, ça, je pense.
C'est inversé. Ouais. Hein. Voilà. Pour finir, il y a 4 ans, il y a beaucoup de joueurs qui sont maintenant en senior. Paul Camisulis, Corentin Bourguet, Ivan Adandé, Bastien Graville, qui avaient fait tour fédéral contre Béziers. Au Cos d'Auge.
Oui, c'est...
Il y avait eu 1-0 pour Béziers. Gambardella.
Je viens de tilter là. Est-ce que c'est pas le Nord-Lozère, les jeunes du Nord-Lozère
qui ont reçu Ajaccio
il y a pas longtemps?
Gazélec.
Je savais qu'il y avait eu quelque chose il y a pas si longtemps que ça.
L'an dernier.
Non, il y a deux ans. Le Gazélec d'Ajaccio,
ouais. Ouais, c'est ça.
Voilà. Ça met du temps, mais ça arrive.
C'est bien, ça arrive. Et tu sais quoi, on va faire une pause musicale comme ça, là. Ouais. Quand on va revenir, tu vas être énorme. En tout cas, bravo à ces jeunes et bien sûr, on va suivre la suite de la compétition.
How much you smoke, just say you love me for 3 good reasons and I'll throw you the rope. You don't need it because you are the survivor of more than one life and you're the only lover I had who ever slept with a knife. But you're not Judy Garland, or just like me, you've never really had a home of your own. And I'm not Tony Hancock, baby, until the dawn stone the crow. Stone the crows. Stone the crows. And you see, I brought you flowers. I brought you flowers all collected from the old Vic stage. And I've been sitting here for hours, baby, chasing these words across the page. You're my Waterloo, I'll be your gypsy lane. I'm so glad we know just what to do and exactly who to blame.
Alors, calmez-vous, messieurs, calmez-vous. Alors, pour une fois que tu choisis une chanson, c'est étrange, Laurent.
C'est Doherty.
On te laisse choisir une chanson.
On s'excuse auprès de nos auditeurs.
Ouais, c'est pas grave. Tiens, on va continuer à parler de foot. Match reporté pour la une de l'AFL. Seuls deux matchs en R1 n'ont pas été reportés. Frontignan a battu Clermont à domicile 4 buts à 2. Et la réserve de 7 s'est imposée à domicile face à Saint-Clément-Montferrier 6 à 1. La semaine dernière, en soirée, élimination de la Coupe Gare-Lozère, l'AFL largement remaniée, s'incline 2 à 3 au bord. Alors la question, Julien, tu y es allé ou pas?
Oui. Ah, il était au bord.
J'y étais. Tu étais titulaire?
Il était au bord du gouffre.
Au bord du gouffre, je te le confirme.
Et alors, la galère?
Non, pas tant la galère, mais de toute façon, au coup d'envoi, on était déjà éliminés. Donc, vu que c'est l'équipe 1 qui est engagée, il faut 6 joueurs de l'équipe 1 qui ont fait au moins 4 matchs. On n'était que 3. Donc, voilà.
C'était qui les 3 joueurs de l'équipe
1? Non, mais moi, enfin, c'était Abdoulaye Seck dans les buts, William Pereira devant et Yamin Dendani au milieu de terrain.
Voilà. D'accord. Après, c'était que des joueurs de l'équipe réserve, donc.
Voire équipe 3.
Ouais. Ok.
Donc on nous envoie, on nous envoie en semaine jouer pour pas payer une amende, c'est tout, parce que là c'est clairement que ça, puisque dès le coup d'envoi on est éliminé de toute façon. Donc,
regarde ce que tu dis, tu vas te faire limoger.
Je l'ai dit à François. Donc,
ouais, non mais c'est bien, c'est franchement.
Si au bord avait porté réclamation.
Ils ont porté réclamation. Ils ont porté réclamation. C'est ce que j'ai demandé. C'était Abdoulaye le capitaine. J'ai dit Abdou, est-ce que il y a eu des réserves? Abdou m'a dit oui, ils ont porté réserve sur toutes les licences.
Oui, donc c'était perdu.
Bon ben on a perdu. Je dis pourquoi? Je dis joue, on en parle après.
Donc voilà. Ouais, donc,
surtout
ouais,
qu'en plus, c'est pour apparemment bon, faire purger. On inscrit l'équipe 1 dans cette coupe pour faire purger les cartons. Par exemple, un Paul Camizulis qui a pris 4 matchs de suspension, ça lui permettait de purger un match. Est-ce que du fait que Aubors ait gagné, est-ce qu'ils vont examiner la réserve? Peut-être pas. Mais apparemment, de ce que j'ai compris, vu qu'il y a eu réserve sur toutes les licences et qu'on est en tort, ça compterait pas comme un match purgé.
Ah zut!
Alors, le règlement aurait changé parce que il y a quelques années, quand j'étais encore aux affaires, même si tu avais perdu le match sur tapis vert, il comptait quand même comme un match
joué. Ouais.
Mais peut-être que le règlement a changé. Quand même quelques années, à partir du moment où le match était joué, mais si tu perdais sur tapis vert, ça comptait quand même comme un match comme tu dis, pour les suspensions.
De toute façon, si le club avait pu fournir les 6 joueurs que tu parles, il l'aurait fait. S'il n'a pas pu le faire,
Tu dis à 6 joueurs de venir et voilà, tu le fais.
Les gens ils bossent, ils vont pas prendre un jour de congé pour aller faire un match de football.
Tu t'engages pas dans cette coupe sachant que tu pourras pas la tenir.
Mais non, mais quand tu t'engages au mois d'août, tu sais pas qu'ils vont te planter un match un mercredi.
Mais chaque année, ils les plantent, Lolo.
Ils nous plantent des matchs un mercredi. Ah ouais, moi,
donc, vous voulez dire qu'il faut pas qu'on s'inscrive à un Coupe
Gare-Lozère? Il faut s'inscrire à un Coupe Gare-Lozère.
Mais l'équipe 2, alors. Je suis d'accord avec Patrick, je me dis que est-ce qu'il faut s'inscrire à un Coupe Gare-Lozère? Chaque année, c'est la même chose. Chaque année, nous font des matchs cachés.
Non, mais disons que là, ça faisait 3 ans qu'on était en National 3. Donc, la question, elle se posait pas. C'était obligatoirement l'équipe réserve qui l'a joué.
C'est ça.
L'an dernier, on y est descendu en semaine. On est descendu à Vonage. En semaine, pareil, un mercredi soir, sauf que c'était l'équipe 2. Donc là, le règlement, il est inverse. T'as pas le droit de prendre plus de 3 joueurs de l'équipe 1, vu que c'est l'équipe 2 qui est engagée.
D'accord.
Donc là, c'est facile. Les mecs de la 1, ils descendent pas. Réglementairement, t'es bon. Il y avait des étudiants qui étaient à Montpellier, on les avait fait venir. Voilà, on était 13. on avait joué. Là, ça, voilà, ça se pose pas la question. Mais là, comme on était...
Là, une équipe une, il n'y a pas d'étudiants, tu veux dire, c'est ça?
Oui, déjà, il n'y a pas ce côté d'étudiants, un petit peu, certes. Mais voilà, les mecs, moi, il y a des mecs de la une qui ne veulent pas venir, je les comprends. Ils ont les mecs qui se cassent la tête depuis 10 ans au club de ne pas venir en gare Lozère un mercredi, ok. Après, si c'est l'équipe une qui est engagée, soit tu n'engages pas le club, tu payes une amende en début de saison, soit tu engages, et dans ces cas-là, il y a un règlement à respecter, mais tu respectes le règlement. Parce que là, moi, clairement, j'ai eu la sensation de me faire envoyer au casse-pipe, quoi. Et qui veut descendre pour pas payer une amende? Allez, on y va.
Non mais après,
le résultat, je m'en fous.
Oui, oui.
Résultat, je m'en fous.
Mais, tout ce que tu dis, d'ailleurs,
Et c'est le joueur qui parle.
C'est bien, il y a eu certain courage de ta part de le dire, parce que tu es partie prenante. C'est plus facile pour nous qui sommes pas dans le truc. Mais toi, tu es totalement dans le truc et tu parles avec ton cœur et c'est bien, félicitations. Mais moi, ce qui me semble totalement hallucinant, c'est que tu trouves pas 6 joueurs de l'équipe première même si c'est un mercredi soir, même si tu faut partir à 4h30,
vous êtes parti à 4h30.
Vous êtes parti à 4h30. Bon, si tu n'as trouvé pas 3 autres joueurs de l'effectif une pour descendre à Aubon et faire. Non, mais là, moi, j'hallucine, les gars, je vous le dis franchement. Ouais, j'hallucine.
Je suis d'accord avec toi, Patrick. Moi, je me rappelle avoir fait un match à Saint-Laurent-des-Arbres. C'était coach Sora, l'entraîneur encore à l'époque. Et il y avait les mêmes trucs, et Steph avait trouvé 6 joueurs.
Saint-Laurent-des-Arbres, c'était pas à côté.
Il avait trouvé 6 joueurs pour faire le nombre, et après, on était des joueurs de la réserve, on avait joué là-bas. Voilà, mais il avait 6 joueurs pour être en règle.
On enchaîne si ça intéresse pas le coup. Ça nous intéresse pas non plus.
Je pense que.
La réserve n'a pas.
Je pense que l'AFL a d'autres soucis à régler en ce moment que ce tour de coupe au Garloser, et c'est bien dommage.
La réserve n'a pas.
Il y a un gros match.
Pour les joueurs qui y sont allés, c'est très dommage.
Juste pour finir. Juste pour finir, après, quand il y a des demi-finales de coupe à jouer contre Nîmes Olympique.
Là, il y a plus de 6 joueurs.
Là, il y a 6
joueurs. D'accord. Il y a plus de candidats. Mais tu as raison, tu peux enchaîner. Et d'ailleurs, on peut enchaîner sur le programme.
De toute façon, il n'y aura aucune demi-finale, puisque il n'y a plus de coupe.
Non, mais j'espère qu'on sera au complet. J'espère qu'on sera au complet.
Demi-finale de Gambardella.
Attention, tu as dit le mot magique.
J'espère qu'on sera au complet ce week-end, parce que là, c'est un gros match.
Tu as dit le mot magique. Nîmes Olympique, défaite des seniors féminines de l'Entente féminine, cœur de Lozère, AFL Badarou en R2.
Fini. On va à l'atte. Attention, c'est le gros match. Là, très vaincu.
Si on perd à l'atte, on a 10 points d'écart avec l'atte. Au mois de.
Donc là, j'espère que ça sera recoupé.
J'espère quoi, Laurent?
J'espère qu'on gagne à l'atte.
Samedi à 19h à l'atte.
Voilà, samedi 19h.
Ah!
Contre Rebolloso. Ouais.
Et pourquoi on ne fait plus les paris de l'AFL? On a oublié cette année.
Que des bons souvenirs.
Abandonné cette idée.
C'est vrai, cette année, on a oublié de faire les paris sur l'AFL, Patrick. Je viens de m'en rappeler à l'instant. Comme toi, j'ai eu un déclic.
Non, on le fait pas.
On le fait pas, non. Les féminines, s'il vous plaît, messieurs. C'est important. C'est ce qui est important dans ce club.
C'est pas Nîmes Olympique, c'est le FC Nîmoise. Un club de Nîmes.
Ah oui, les Nîmoises FC. Féminines.
Et oui,
un club 100% féminin.
Contre Nîmes Olympique, je pense qu'on aurait pris une pilule bien plus.
Non, t'aurais pas pris une pilule parce que le club, il existe pas.
Ouais. Mais les Nîmoises FC. Pourquoi vous appelez pas les Mandoises FC?
Parce que c'est une entente.
Bon, alors,
c'est le cœur de la Lozère.
Allez, c'est 1h17, on est à la bourre déjà.
Oh, alors qu'on voulait finir plus tôt.
rien à dire sur ce match. Tiens, Julien, t'as fait arbitre de touche. Donc toi, t'étais près du terrain. Alors dis-nous un peu.
Je suis impliqué pour mon club.
Voilà. Non, vas-y, on veut savoir sur le match, on s'en fiche.
Fais le résumé.
Le résumé était fait.
Non, mais il y a 1-0 à la mi-temps pour Nîmes, c'est assez mérité parce qu'ils ont eu un peu plus de situations que les joueuses de l'Entente Cœur Lozère. Après, je pense qu'il y avait un coup à jouer dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Nîmes a eu un peu moins le ballon. Elles étaient coupées en deux. Je pense qu'il y avait, si 2-3 coups avaient été un peu mieux joués, ça aurait pu donner peut-être une égalisation. Et puis après avoir fourni un peu d'efforts pendant 15-20 minutes, elles se sont relâchées. Il y a eu 2 buts, 2 cadeaux à la fin. Le score fait peut-être un peu lourd, mais c'est sûr que la défaite, elle est logique au vu de ce qu'on a vu.
Ok.
Pas mieux.
Allez. Je valide. Très bien. Prochain match.
Prochain match le week-end prochain à Sussargues contre l'équipe qui casse tout dans cette division.
Ouais.
Je serai pas la touche.
C'est là que vous allez gagner.
Mais pas de sortie en boîte de nuit.
Je n'ai pas eu de retour sur le BCM qui jouait ce week-end. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils jouent à l'extérieur.
Ils se sont noyés. Enfin, ils sont... Je sais pas.
Non. On ne sait pas. C'était vendredi soir, ils ont dû aller. Belle victoire 5-1 des U17 en championnat contre le Dauphin Centrafrique. Ils restent premiers. Les U16 se sont inclinés 2-3 en Coupe d'Occitanie. U17 contre Villeneuve, qui est leader U17 D1.
À noter que l'équipe à Yopon, c'est à Vlad, avait beaucoup de première année. Pour ce match-là, donc il fait un écart d'âge un peu conséquent.
Vous avez des U15 et des U16 et Villeneuve avec que des U17.
Ton équipe a fait quoi, a gagné ?
On a gagné.
Ah, oui. Ça y est.
C'est là l'info du week-end.
C'est là l'info. Ouais. Première victoire.
On parle que du match ou de l'après-match ?
Non, on parle du match.
D'accord. 2-1. Non, mais on dit rien, on dit juste le résultat, on n'a pas le temps.
Si, voilà, c'était donc le 3e du classement. Si, on,
bravo,
on
va, c'est bien.
Si, moi je vais.
Non, on s'en fiche.
Si, là, on peut en parler.
Non. Je vais quand même dire un truc parce que il y a eu 3 matchs samedi et je tiens à remercier le papa d'un joueur, le papa de Matteo, même s'il aime pas être sous la lumière, qui est allé chercher des raclettes à son travail pour pouvoir déblayer le terrain qui était inondé. Si je vous montre une photo à 11h15 du mat, vous allez me dire, mais comment vous avez fait pour jouer ? C'était inondé.
Il est en colère aujourd'hui, Julien.
Non, là, c'est...
Il est pas en colère.
Non,
c'est positif.
Là, positif.
Oui, mais bon, ça veut dire qu'il est... Personne n'avait rien fait, là.
Non, c'est le week-end, c'est les bénévoles.
On arrive à 11. Moi, j'arrive à 11h.
Donc, le papa Matteo est allé chercher les balais.
Ouais.
Et il vous les a laissés.
Et il a balayé.
Oui, il a tout balayé.
Il a déblayé tout seul. Il a mis des coups de raclette tout le match. Franchement, un grand merci à lui, parce que derrière, il y avait le match de Daniel. En Gambardella, il y avait le match de Yo.
Le
terrain, après, la chance qu'on a eue un petit peu aussi, c'est qu'il s'est arrêté.
Il ne faut pas jouer en premier, quoi. Il faut jouer le deuxième match, comme ça, c'est le premier qui gère. C'est ça.
La chance qu'on a eue un peu aussi, c'est qu'il s'est arrêté de pleuvoir, mais je pense que sans tous ces coups de raclette, clairement, ça ne jouait pas, quoi. Donc, un grand merci à lui. Et si l'après-midi s'est tenu, voilà, c'est. Et un grand merci à Daniel aussi, qui était là depuis 11 heures et qui a mis des coups de balai pour déblayer le stade aussi. Quoi.
Ok, c'est noté. ENL 3, Saint-Julien-Chapteuil 1, ENL 1er avec 21 points, devant Châtel-Guyon 2e 18 points, 3e Osa 15 points, 4e Saint-Didier 15 points, et Varenne qui suit. Est-ce que Fougas a marqué est-ce qu'on le sait? Non.
J'ai pas vu les buts.
Non, j'ai pas vu non plus.
Régis Brunel qui a marqué le dernier but. Et en tout cas, il y a un énorme match ce week-end puisqu'ils vont à Châtel-Guyon, qui est second.
Ah, c'est ça qu'on aime. Parfait. Langogne, match reporté contre Amber. Marvejols qui perd 2-1 à Saint-Christol. Marvejols 10e sur 12 avec 6 points. On en est où? Hop.
Le Buisson, match remis. Et FSL,
Lozère, match remis.
Match remis. Ouais. Deux déplacements dans le Gard, deux matchs remis.
Voilà. Départemental 3, Chastel 1, Mende 3, 2. Le Malzieu 1, le Masgros 1 et Marjorie 0. Et attention, Tom, qui a gagné 2-0 à l'extérieur. Bravo.
Non, c'était à Montroda, je crois.
C'était à Montroda.
Le match avait été.
Ouais, mais attention, parce que tout à l'heure avant l'émission, il m'a dit que c'était contre le Massegron. Ouais. Et là, c'est contre Margeride.
Non, c'était contre Margeride. Ouais.
Contre Margeride, mais à Montroda.
Bravo à toi.
Et ouais. Alors, le HBNL, un match des seniors garçons, 3e tour de Coupe de France. Ils se sont qualifiés 42-17 à Londres.
Prépare-toi parce que tu vas être obligé de faire un match
live.
Parce qu'ils vont aller loin, donc ça va être un événement. Et donc tu vas être obligé de déporter ton matos là-bas à Saint-Chély ou à Saint-Alban.
Il faut qu'ils arrivent en finale, moi, pour que j'aille.
Tu vas voir, je te l'annonce.
Merci, on va à Bercy, hein. Mais on va qu'à Bercy, par contre.
Ouais, mais là, ils sont. Pour l'instant, ils sont qu'à l'air de la Lozère. Hein, ils sont pas. ils sont pas à Bercy.
L'Andos, c'est quel niveau comparé au HBNL?
Je pense, de toute façon,
ils sont
quand même une. Il n'y a pas plus bas, de toute façon.
C'est Coupe de France départementale, ils appellent. Il y a plusieurs niveaux. Donc, ils peuvent aller très loin.
Oui.
Après, ils veulent sortir de la Ligue Auvergne, ils vont jouer contre des autres ligues, ça peut aller haut.
Ils le disent, c'est leur objectif.
Oui, bien sûr.
Et la montée, quand même.
Avec l'équipe qu'ils ont.
Ils monteront, mais à la vue de l'équipe qu'ils ont, ils savent qu'ils vont monter. Donc, c'est vrai que faire un parcours en Coupe.
Très bien.
Donc, prépare-toi, Ludo, je te le dis déjà. Toi, dans quelques mois, tu te souviendras de ce que je t'ai dit.
Je sais pas, j'ai jamais commenté de hand.
C'est un sport de prédilection.
Non, c'est pas mon sport.
À 5, on y arrive.
Il y en a qui n'ont jamais commenté du volet et qui le font.
Et qui arrivent.
Ouais, on voit le résultat. Ouais, monsieur. Très bien, c'est bon pour l'actu lausérienne. Ça vous va, rien à rajouter? Parce qu'on va passer.
On n'a pas le choix.
Au pronostic.
Tu as le rugby qui a été reporté.
Oui, et le rugby.
Et donc, qui joue dimanche prochain. Ce dimanche à 15h,
contre Poussin. Si le terrain a absorbé, hein, parce que là, il renonce de la pluie à partir de mercredi toute la fin de semaine.
En tout cas, la Ligue Occitanie a pris la décision, donc le match est remis à ce dimanche.
Ok.
Bon, il n'était pas inondé, l'honneur, contrairement aux annexes.
Ouais.
C'est sûr qu'il a dû prendre
un peu cher,
mais c'était les accès aussi, comme les parkings étaient touchés.
Inondés, ouais.
Donc voilà. La piscine a été fermée, et donc les stades ont été fermés.
Ça se joue sur du synthétique, le rugby?
Oui,
sur
les synthétiques
purs, je crois pas.
Bon, comme le football américain, remarque, hein. Ouais. Ça doit faire mal, hein, quand tu tombes, là, quand tu rappes.
Hybride, oui, mais.
Ah, au Yona, ils ont un synthé, hein.
Un synthé, ouais. Coupé.
Je pense qu'à l'Arena Défense, là où il y a le.
Ah oui, c'est synthétique, quoi, tiens, donc.
Il y a ça aussi, peut-être un synthétique un peu mieux pour le rugby, mais à Yona, c'est un synthé.
Ok. Excellent. Allez, les pronostics. Yona,
ils sont en quoi, fédéral, maintenant, non?
Non, il y en a, ils sont en Pro D2.
Ils sont encore en Pro D2
ouais, 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 ils sont premiers de Pro D2.
Tu reviens sur la Ligue 1
Non, non, il y a les championnats
où l'OM a gagné et Montpellier a perdu, c'est ça ouais. Qui est second? Je ne me rappelle plus, ouais. Sachant que.
C'est que Paris tremble, là.
Ah oui. Ah, oui.
Montpellier n'a pas perdu.
J'ai un collègue qui travaille dans les mêmes locaux que moi, alors on ne dira pas qui, mais il travaille avec 48 FM. Il y a trois mois, il a imprimé le classement de Ligue 1, tu sais. Pour me le coller sur la porte de mon bureau pour me montrer que Montpellier est au-dessus de l'OM.
C'est vrai ça, c'est vrai.
Ce qui est bizarre, c'est que depuis un mois et demi.
Ah, tu vois plus rien.
Ouais, il a plus de scotch.
J'ai toujours le classement au bout de 8 journées, tu sais, où on faisait le temps par an. Mais c'est bizarre, il n'y a plus rien.
Problème d'imprimante. Ouais,
je vais revenir. Je vais revenir bientôt.
Tu vas revenir quand? 2025?
Attends, mais on a des matchs difficiles au Chaudron. Ça va, on ne va pas jouer au stade. Je
m'empêche de parler de mon match du 14-1. On va pas parler de vos Marseille-Montpellier.
Ils disent. Ouais, il y a des bons 0-0. Celui-là, c'est un bon 0-0.
Quoi, c'est nul ce match.
Ouais.
C'était affreux.
Ah,
c'était
dégueulasse.
Oh, ouais, tu aurais dû avoir un petit quand même.
Oh, purge.
Ouais. Ça, c'est
les autres aussi.
Et la VAR. Hein.
Parce que le VAR a été.
C'était aussi.
VAR. Était peu,
le VAR, il a débordé ce week-end.
Bon, attention. Trois pronostics. Ligue des Champions.
Pas mal.
Real Madrid Paris.
Qui c'est qui a trouvé? C'est Laurent. Donc, de Laurent, tu décides qui c'est qui commence les. Tu as gagné le jeu.
C'est toi.
Tiens,
allez.
C'est que quand c'est moi qui commence, c'est moi qui
une base comme ça.
Ok, donc
Real. Tu perds la base.
Real Madrid Paris. Pouf, c'est compliqué ça.
C'est demain.
C'est compliqué. Hein. T'es sûr, c'est moi qui commence?
Ouais, ouais. Et après, c'est moi. Parce que là, j'ai le score.
Deux partout. Allez, 2-2, ouais. Parce que je sais pas du tout.
Je vais parier encore.
Patrick.
Peut-être bien.
Alors, attends. 3-2 Paris.
Ok.
Parce qu'il va faire jouer les 4 fantastiques.
Ouais.
Qui sont? C'est qui?
Qui sont Neymar, Valère Icardi, Germain, Di Maria et Mbappé.
Allez, dis-nous.
4 attaquants à l'extérieur, ça serait osé, mais pourquoi pas.
Bah, de toute façon, il est qualifié, donc s'il le tente
Nico,
pas.
Un petit indice, Nico, Kurzawa est blessé.
Oh, ça c'est vrai que c'est. Attention.
On dirait une question pour un champion. Un indice chez vous, tout de suite.
Non, mais déjà,
votre écran.
Non, mais l'info, c'est qu'un Kurzawa n'est pas blessé.
Oui, c'est ça. Donc, et Verratti joue pas.
Ça veut dire que l'équipe est meilleure.
Ah, Verratti joue pas.
Il est dans le groupe. Il est dans le groupe.
Tu dis qu'il joue pas.
Non, il a dit il joue.
Non, parce que c'était pas sûr, j'ai dit il joue. Allez, Nico, dépêche-toi.
Allez, 2-2.
Comme moi?
Mais oui.
Je marque des points. C'est bien, Nico.
Et là, il est dégoûté. J'ai vu dans ses yeux.
Il se souvient plus déjà.
C'est moi qui suis dégoûté entre deux.
Regarde,
j'ai vu dans ses yeux.
C'est moi qui suis dégoûté.
Oh merde, qu'est-ce que
j'ai dit? Les Real, ils tournent en ce moment.
Ouais, ils tournent. C'est pour ça, 2-2, c'est bien. Je pense que tu as raison.
Ah, il joue contre.
Cher ami.
Benzema qui a dépassé la barre des 300 buts.
Attention, Julien Gall va donner le bon résultat.
Attention.
Inverse, du coup.
Attention. Ouais. Attention.
Alors.
2-1 pour le Real.
Ah. Ok, c'est bien.
J'hésitais entre ça et 2-2.
Donc, moi, je dis 2-1 pour Paris.
Ok, Tom a dit 2-1 pour Paris.
De Julien.
Donc, Tom a dit 2-1 pour Paris.
Ah, comme moi.
Et Cucu a dit 2-1 pour Paris.
Voilà.
Ça peut faire un tir groupé.
Ah ouais, ça peut faire un trio.
Ouais. Saint-Pétersbourg, Lyon.
Qu'est-ce que c'est
Mathieu? Oh là là, quelle cata.
Il a affreux.
Il joue contre qui ce week-end?
C'est
contre Brest.
Alors, t'as un instant, voilà.
Qui? Marseille-Brest, allez. Si on parie contre
Brest. 1-0 Saint-Pétersbourg.
Saint-Pétersbourg-Lyon,
à toi.
Quel match pourri.
Ah, pourtant, je l'ai sympa, mais un partout.
Ouais, moi je l'ai sympa non plus. Nico.
1-2.
Ok.
2-1 pour Lyon.
2-1 pour Lyon,
t'es pas fou, toi. Je voulais dire un partout, mais comme Patrick l'a dit, 2-2.
Ok, Laurent.
1-0 pour Lyon.
Ok, donc Tom a dit 2-1 pour Lyon, et Cucu a dit 2-1 pour Lyon. C'est toujours pareil sans se concentrer,
ouais,
comme toi.
C'est bizarre.
Ils sont connectés ou quoi?
Ouais, à chaque fois, quoi.
Ouais, c'est très bizarre, ça.
Allez, on va continuer dans les gros matchs. Lille qui reçoit l'Ajax, donc je vais dire Lille-Ajax 1-3 pour Ajax.
Alors Lille va gagner parce que justement tout est fini dans ce groupe, donc ça va faire 2-1 pour Lille.
Ok.
Tout est fini pourquoi?
Pour Lille.
Ben Lille n'est pas qualifié et Ajax est qualifié.
Non.
Non.
Non, il y a
un petit
groupé avec Valence et Chelsea.
Ouais, bon, ils se qualifieront dans les matchs, donc mais quand même 2-1
pour Lille. Je crois. Je crois que Lille a 1 point et Valence, Chelsea, Ajax 7, il me semble justement.
2-2.
2-2.
Lille, Ajax. Mais je pense que le fait que Lille soit éliminée, ça va un peu les libérer.
Non, je vais dire,
je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire un partout.
Ok.
Ça va bien les libérer.
1-0 pour Lille.
Ok. Tom a dit 2-0 pour l'Ajax et Cucu nous dit 1 partout. Allez, ben on verra ça la semaine prochaine. Merci, messieurs.
Belle émission.
Belle émission aujourd'hui.
Il n'y avait rien à dire, il y avait aucune actualité. Voilà. Comme quoi. Hein.
Mais un peu, avec un petit pas grand-chose, on arrive à faire
un peu de volée, un peu de Garloser.
C'est ça.
Et vivement la prochaine. Lundi prochain, on vous invite à nous écouter. Il y aura l'entraîneur de l'équipe féminine, AFL Badarou, qui viendra nous parler de son adjoint Nico Thomas, qui ne sera pas là, lui. Hein, et mais Mathilde revient pour en parler. C'est Messo qui nous parlera un peu de Badarou, du coup, qui fait partie de Badarou. Mais on va avoir un gros focus sur cette équipe féminine et sur le rôle que tient Nico. Que t'es pas là. Non. Ouh là là.
Le CSA.
Coupez la tête.
Même l'ordi l'a clignoté rouge.
Coupez la tête.
Allez, ciao, à la semaine prochaine.
Allez, bye bye.
Leslie John au couloir en numéro 2, allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Mister Marquet, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant, Alex, la France entière.
Parker inside, quick play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Yutaxi Apéro.
Allez Louis. Allez mon